Vous écoutez
RMC.
Mercredi 1er juillet,
l'info sur RMC.
Il est 6h. Merci d'être avec nous. Céline Kallmann est là pour les dernières informations. Céline, bonjour.
Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. 5000 postes en France, 15000 dans le monde. Airbus va supprimer 11% de ses effectifs. Excessif, réagit le ministère de l'économie. Inciter les patrons à recruter des apprentis. L'aide à l'embauche est versée à partir d'aujourd'hui aux entreprises qui jouent le jeu. Et puis je vais presque où je veux, quand je veux. Les frontières hors de l'Union européenne s'ouvrent à partir d'aujourd'hui. Aujourd'hui à une quinzaine de pays. Bienvenue à tous sur RMC, il est 6h. Le problème, ce n'est pas la chute, c'est l'atterrissage. En supprimant des milliers de postes, le secteur aérien va-t-il réussir à se relever de cette crise sans précédent, des années de croissance ininterrompue? Et puis, le Covid est passé par là. Le géant européen de l'aéronautique Airbus annonce la suppression de 15 000 postes au niveau mondial. Margot Bédé.
Ça représente 11% des effectifs. Plusieurs pays sont concernés. En tête, l'Allemagne avec environ 5100 postes supprimés. Au Royaume-Uni, 1700. La France paiera également un lourd tribut avec 5000 suppressions de postes. Le secteur de l'aviation a été particulièrement touché par la crise sanitaire. L'activité commerciale a chuté de près de 40% ces derniers mois. Si Airbus limitera tant que possible les licenciements secs, ils ne seront pas exclus. Le groupe espère tout de même s'appuyer sur des départs volontaires, des mesures de retraite anticipée ou encore du chômage partiel de longue durée. De son côté, le ministère de l'économie a déploré ses 15 000 suppressions de postes, un chiffre excessif d'après Bercy qui a rappelé qu'un plan de 15 milliards d'euros a été mis en œuvre par le gouvernement pour soutenir justement le secteur.
Et votre invité Jean-Jacques ce matin à 8h35, le secrétaire d'État au transport, Jean-Baptiste Djebbari.
Oui, que fait l'État ? Et que dit l'État? Eh bien, Jean-Baptiste Djebbari va devoir répondre.
Le dispositif de chômage partiel longue durée entre en vigueur aujourd'hui, 1er juillet. Il permet aux entreprises des secteurs les plus touchés une réduction du temps de travail pouvant aller jusqu'à 40% en échange de garanties sur l'emploi. Pour inciter à l'embauche, une aide va aussi être accordée à toutes les entreprises qui prendront des apprentis. 8 000 euros pour les majeurs, 5 000 euros pour les mineurs. Exemple concret à Perthes en Seine-et-Marne. Romain Poiseau y a rencontré Laure, une jeune coiffeuse qui vient enfin de trouver un salon pour son apprentissage.
Laura, 16 ans, a passé plus d'un mois à chercher un salon de coiffure pour réaliser son contrat d'apprentissage.
On m'a dit qu'ils ne comprenaient pas l'apprentissage parce qu'ils ont eu une perte d'argent du coup à cause du confinement et qu'ils n'avaient pas forcément les moyens. Je ne pensais pas que ça allait être compliqué comme ça.
Elle a même hésité à changer de filière.
Je me suis dit je vais aller dans l'esthétique et au final, non, il fallait juste que je m'accroche. Mais je suis au courant que quand on prend une apprentissage, on a des aides.
En effet, Marion Gransard, la propriétaire du salon, a bénéficié de 5000 euros d'aide. Sans cela, elle n'aurait jamais pu recruter Laura.
Cette prime-là a vraiment fait en sorte que j'accepte de la prendre pour son CAP. C'est quand même quelque part une charge supplémentaire qui est quand même une prise de risque. Alors que là, c'est vrai que ça m'aide énormément. Je vais devoir à payer à peu près 300 euros au lieu de 700 ou 800.
Une aide précieuse pour préserver l'apprentissage et permettre aux entreprises de se projeter. Pour Alain Bahot, directeur du CFA de la Faculté des métiers de l'Essonne.
Ce qu'il faut, c'est surtout préserver les flux d'apprentis, préserver l'outil que sont les CFA, parce que de toute façon, il y aura quand même une reprise économique.
Autre mesure importante pour les apprentis, le gouvernement a prolongé de 3 à 6 mois la période pour signer un contrat d'apprentissage.
Autre changement ce 1er juillet, les allocations chômage qui sont également revalorisées de 0,4% pour environ 3 millions de bénéficiaires. Et puis, le prix de certains paquets de cigarettes va aussi augmenter de 10 centimes environ. Parmi les infos de la nuit, un coup de pouce pour soutenir la presse très mal en point. L'Assemblée nationale a voté hier soir un crédit d'impôt pour un premier abonnement à un journal d'information générale. Les explications d'Agnès Buzyn hier pendant plus de 4 heures devant la commission d'enquête de l'Assemblée nationale. L'ancienne ministre de la Santé a tenté de convaincre d'une voix tremblante et affaiblie. Elle a défendu ses décisions prises au début de la crise du coronavirus.
Ce que nous avons mis en place au ministère de la Santé depuis le 10 janvier est sans commune mesure, en tous les cas en termes d'anticipation avec ce que j'ai vu, notamment dans les autres pays. En aucun cas, je ne peux laisser dire que le ministère de la Santé a été lent. Vous ne pouvez pas dire que je n'ai pas anticipé. Et je ne laisserai pas dire que les services n'ont pas anticipé. Je quitte le ministère avec le sentiment que j'ai fait la bonne préparation et d'être maintenant en capacité de le faire comme maire. L'histoire aura montré que ça ne s'est pas passé.
suite des auditions aujourd'hui, deux anciennes ministres vont être entendues à leur tour, Marisol Touraine et Roselyne Bachelot. Aux États-Unis, Joe Biden annonce qu'il n'organisera plus de meetings électoraux à cause de la pandémie de Covid-19, du jamais vu dans une campagne présidentielle. Les États-Unis, où le bilan des victimes est nettement reparti à la hausse, près de 1200 morts ces dernières 24 heures. Le pays pourrait passer à 100 000 cas par jour, à moins de nouvelles décisions pour endiguer la pandémie. C'est l'avertissement lancé par le directeur de l'Institut américain des maladies infectieuses. À partir d'aujourd'hui, et pour la première fois depuis plus de 3 mois, l'Union européenne ouvre à nouveau ses frontières à 15 pays. Le Canada, notamment, 3 pays du Maghreb également, la Chine, sous condition. Soulagement pour beaucoup de voyageurs qui étaient coincés depuis des mois, notamment en Tunisie. Rémi Inc.
Mohamed est tunisien. Depuis plusieurs semaines, il tente de rejoindre sa femme et sa fille de 3 ans qui sont en France. Il a pris 5 billets d'avion, ils ont tous été annulés.
On ne dit jamais 203, mais maintenant on est passé au 6e, quoi.
Alors dès aujourd'hui, il prendra cet avion pour au plus vite rejoindre sa fille, très marquée par cette séparation forcée.
Il est rentré comme dans, on peut dire, une dépression. Elle n'arrête pas de vouloir m'appeler sur Skype, etc. Quand est-ce que tu viens, papa ? Elle est devenue un peu nerveuse. C'était vraiment une galère pour moi.
Retrouver sa famille, Océane a hâte, elle aussi.
Très contente.
Cette Française a vu sa semaine de vacances en Tunisie se transformer en 4 mois de blocage et autant de retard au travail.
J'ai travaillé en télétravail quand c'était possible sur certains dossiers. Maintenant, au bout de 4 mois, les dossiers, ça commence à devenir urgent.
Et quand on lui demande ce qui lui manque le plus ?
Ma famille et la nourriture française, malgré tout, ça manque. Je pense que je vais faire confiance à ma maman et qu'elle va me cuisiner un petit plat maison familial.
Cette liste de pays doit être actualisée toutes les 2 semaines.
Et c'est dans ce contexte de crise du coronavirus que l'Allemagne prend les rênes de l'Union européenne pour 6 mois. La chancelière Angela Merkel doit en priorité convaincre les pays réticents d'adopter le plan de relance économique de 750 milliards d'euros. On l'apprend à l'instant et c'est plutôt une bonne nouvelle. Le marché automobile français se redresse au mois de juin, plus 1,2% après des mois de chute, chiffre des constructeurs. On y reviendra évidemment dans les prochaines éditions. Football, l'Olympique de Marseille n'est pas à vendre. Encore un feuilleton chez l'OM. La déclaration est on ne peut plus claire. Elle est signée du clan Frank McCourt, propriétaire américain de l'Olympique de Marseille. Une sortie après l'interview de l'homme d'affaires franco-tunisien Mohamed Ajroudi qui officialisait son plan pour reprendre l'OM. Antoine Arlot.
Si une chose semble assez évidente dans cette affaire, c'est que la vente de l'Olympique de Marseille à Mohamed Ayachi Ajroudi et ses partenaires est encore bien loin. Dans cet entretien, l'homme d'affaires franco-tunisien explique que son tour de table est notamment composé d'investisseurs saoudiens et émiratis, mais qu'ils ne dépasseront pas la majorité. Il parle de manière assez floue d'un projet méditerranéen. Concernant l'aspect financier, Mohamed Ayachi Ajroudi dit ne pas vouloir flamber, tout en assurant qu'il souhaitait mettre de l'argent dans le club pour le développer. L'homme avoue enfin qu'il n'a pas encore transmis d'offre d'achat et qu'il n'a pas rencontré l'actuel propriétaire, l'américain Frank McCourt. Il faut dire que ce dernier n'apprécie pas du tout cette approche qui ne semble pas très amicale. Une porte-parole du propriétaire de l'Olympique de Marseille parlait même hier soir d'une tentative de déstabilisation du club.
Ce feuilleton de l'OM, ça vous passionne, hein, Jean-Jacques ?
Ouais, ça me passionne. Je me mets à la place des supporters de l'OM qui ont envie de savoir. Hein.
Ça ne s'arrête jamais.
Ça ne s'arrête jamais. Non, mais je me mets à leur place. Et Mourad, j'aimerais savoir exactement pourquoi est-ce que Mourad s'est embarqué dans cette aventure que j'aime bien. J'aime beaucoup même. Et il faut ne jamais oublier tout ce qu'il a fait avec Toulon, hein. Au niveau du rugby, bien sûr. 6h08. Bon, alors, 6h08, beaucoup de choses ce matin. J'ai vu que ça faisait réagir. Enfin, vous me l'avez dit, Quentin Vinet, toute l'équipe est là. Anaïs Castagna, bonjour.
Bonjour
Anaïs.
À tous.
Charles Magnin et Quentin Vinet. Les vacances, nous sommes le 1er juillet. Il paraît que 54% des Français partent en août.
C'est pas il paraît, c'est la vérité.
Ah bon, ouais, d'accord, bon.
On est plutôt des Aoussiens que des Juilletistes en France, selon un sondage du site Loisirs Enchères. 54% effectivement des Français partent en août, 33% en juillet, beaucoup en septembre, plus de 20%, et quelques-uns en juin, autour de 11%. C'est au mois de juillet qu'il fait le plus chaud. On l'a découvert, nous, ce matin, autour de la table ici à RMC.
Ça vous surprend.
Oui, 26 degrés en moyenne, c'est un degré de plus qu'en août. Il peut même faire très chaud. L'année dernière, le mois de juillet 2019, a été sur le podium, les mois les plus caniculaires, avec beaucoup de soleil, 352 heures parle plus de 350 heures d'ensoleillement dans certaines villes comme Lorient et Orléans. Par contre, contrairement à ce qu'on pourrait penser, eh ben c'est au mois d'août que l'on trouve les réservations les moins chères cet été, selon une plateforme de location. Le même séjour sur la Côte d'Azur, tiens, je vais vous donner les prix, il est vendu 1275 euros en juillet, 1215 euros en août, 60 euros moins cher. Pareil, en Charente-Maritime, 891 euros en juillet, 864 euros en août, 30 euros moins cher en août.
Alors, j'aurais dû réserver en août,
oui.
C'est ça.
Mais vous partez quand, Annalise?
Je pars en juillet.
En juillet, et vous, Charles?
Je viens de réserver un camping pour la première semaine d'août, dans les Landes. Je me disais, d'une part, j'ai aucune chance qu'il y ait de la place, mais si, visiblement, il y en a beaucoup. Et à peine j'ai appelé, la dame m'a dit « Ah non, mais sur Internet, les tarifs sont pas bons, on fait 30% moins cher tout de suite. »
Ah bon? C'est bon à savoir.
Vous avez visité le camping, vous le connaissez?
Ah non, sur Internet, j'ai regardé.
Ah bah d'accord.
Les douches, pour regarder les douches.
Oui. Non, enfin, je vous dis ça comme ça. Maintenant, les campings ont fait d'énormes progrès. Le camping, rappelez-vous, le patron de la Fédération des campings de France, il était formidable. Ouais. Pendant le confinement, il était avec nous.
Que vous avez eu plusieurs fois en invité.
15 jours, oui. Je l'ai invité plusieurs fois. Bien, puisque nous parlons du confinement et de la crise sanitaire, plus d'une entreprise sur quatre, écoutez bien cela, parce que vous allez témoigner, 3216rmc.fr, plus d'une entreprise sur quatre a abusé du chômage partiel.
Chiffre donné par le ministère du Travail, effectivement, sur les 3000 contrôles qui ont été effectués depuis la fin du mois de mai, il y a eu 850 suspicions de fraude. Et on est peut-être qu'au début, hein, surtout parce que 50 000 autres contrôles seront menés d'ici la fin de l'été, sur signalement ou par pur hasard. Alors, il y a une multitude de cas, mais par exemple, ça peut être une entreprise qui place un salarié en chômage partiel, mais qui lui demande quand même de travailler. Ouais. Ça peut aussi être une entreprise qui demande, comme par hasard, du chômage partiel pour des contrats signés pile le jour du confinement. Ça, c'est un exemple qu'on a recueilli ce matin sur RMC. Alors, que risque une entreprise qui fraude? Les sanctions peuvent aller jusqu'à 2 ans de prison, 30 000 euros d'amende, ainsi que le remboursement et l'exclusion des aides pour une durée de 5 ans. Il faut rappeler quand même que ce dispositif, le chômage partiel, ça coûte cher à l'État, 24 milliards d'euros selon Bercy, pour plus de 12 millions de salariés concernés selon les chiffres officiels.